Bonjour à tous. Effectivement, je voulais m'associer à Isabelle pour remercier le comité d'organisation et surtout Jean-François Tessier pour l'organisation de cette journée. Moi, je vais vous parler de pollution atmosphérique et les effets sur la santé, en particulier la santé respiratoire. Alors, l'idée n'est pas non plus de rappeler des choses qui sont connues pour certains d'entre vous, et puis de mettre probablement l'accent sur les questions non résolues, et puis les difficultés un petit peu qu'on a dans le domaine de la recherche pour avancer, et en particulier mesurer l'exposition à la pollution atmosphérique. C'est vrai que tout le monde parle de pollution atmosphérique, on a tous le droit de respirer un air de bonne qualité, mais on verra qu'entre les affirmations et puis le résultat des études, c'est difficile de mesurer l'exposition à la pollution atmosphérique. Alors on a bien sûr des ambitions, on espère avoir des modèles qui vont nous permettre de mesurer l'exposition à la pollution atmosphérique depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, mais vous verrez que pour l'instant on n'y est pas encore, on a un certain nombre d'écueils. Alors, vous le savez tous, hein, surtout dans le contexte social et politique actuellement, la pollution atmosphérique, c'est un terme général, mais qui recouvre quand même plusieurs notions. Donc, c'est une espèce de soupe, c'est un mélange complexe. Il y a énormément de substances qui sont intégrées dans cette notion de pollution atmosphérique. Et alors, on n'est pas exhaustif, pour autant, on va pointer du doigt l'effet de certains composés. Mais en agissant essentiellement sur ce qui résulte de l'activité de l'homme, puisque là-dessus, on peut avoir une action, une efficacité, surtout dans le domaine de la santé publique, mais bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Et cette notion de mélange, c'est quelque chose qu'il faudra garder à l'esprit pour l'interprétation des études, puisque, pour mettre peut-être un peu la charrue avant les bœufs, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une idée de l'exposition cumulative à la pollution atmosphérique, et pour l'instant, là aussi, souvent les études vont montrer des effets en étudiant un polluant après l'autre. Donc ces polluants, vous les connaissez, je ne vais pas les passer en détail. On insiste beaucoup sur le dioxyde de soufre, sur les NOx, également sur les particules en suspension. Et Patrick Brochard nous en a dit un petit mot ce matin, en particulier à travers les nanoparticules. Mais moi, je vais surtout insister sur les particules en suspension de taille de 10 microns et puis les particules fines qui ont une taille inférieure à 2,5 microns. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres composés que vous connaissez qui sont les polluants secondaires, en particulier l'ozone, qui est donc un polluant majeur. Alors, toutes ces particules, elles sont classées en fonction de leur taille. Donc, ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver. La taille est importante puisqu'on sait maintenant que l'effet sur la santé respiratoire, elle dépend directement de la taille de ces particules. Alors, comment ça se passe? Ces différents polluants, donc on classe d'une part les polluants particulaires, donc tout ce qui est poussière, fumée noire, les particules PM10, PM2.5, on va y revenir, et puis les polluants gazeux. Si on regarde un petit peu l'évolution donc des différentes sources d'émissions en Europe au cours du temps, on voit que principalement les NOx, elles sont rapportées donc par tout ce qui est transport routier, les particules fines également, hein, il y a des causes résidentielles, on y reviendra, en particulier des effets sur la santé des enfants, et puis les dioxydes de soufre donc qui vont donc venir de tout ce qui est production de chaleur. Donc les sources de pollution maintenant, elles sont bien connues. Et lorsque l'on regarde l'évolution un petit peu de ces sources de pollution depuis les années 90, on voit effectivement que la pollution, elle a changé. On est passé d'une pollution industrielle à une pollution plutôt particulière, essentiellement d'origine automobile, liée donc aux particules fines. Alors, ce qui est également intéressant comme autre partie de la photographie, c'est quel est le pourcentage de la population qui est exposée finalement à ces seuils de pollution. Et vous avez sur ce graphique, globalement, le pourcentage de la population urbaine qui est exposée à des niveaux de pollution. Et globalement, en fonction des polluants, on va dire qu'entre 10 et au maximum 60% de la population qui vit dans les villes est exposée à des seuils de pollution avec parfois des dépassements de seuils. Alors, vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, il y a donc des objectifs de politique donc, sur la qualité de l'air avec des associations hein, qui sont là pour nous informer régulièrement sur le niveau de la qualité de l'air. Hein, donc, du moins, effectivement, dans les pays développés, on verra que dans les pays en voie de développement, les enjeux sont complètement différents. Donc, il y a des seuils que vous pouvez retrouver et que vous connaissez. Et les effets que je vais vous montrer sur la santé, du moins dans les pays développés, sont des effets de la pollution atmosphérique qui sont en dessous des seuils recommandés donc par l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est une notion importante qu'il faut avoir en tête. Ce ne sont pas forcément des effets liés à des dépassements de seuils. Alors, en ce qui concerne les effets sur la santé, ben, je le disais tout à l'heure, les effets, la taille des particules, il y a un élément important. Et en particulier, quand vous allez avoir des particules qui sont inférieures à 30 microns, elles vont agir principalement au niveau de la région donc, du nasopharynx, avec un phénomène d'impaction hein, au niveau de cette sphère-là. Et puis ensuite, toutes ces particules qui sont inférieures à 10 microns, ben, elles vont pénétrer au niveau de la trachée, au niveau donc, des bronches souches, et puis également jusqu'au niveau des bronchioles. Et ensuite, les particules fines, en particulier donc le NO2, l'ozone et les PM2.5, elles vont impacter jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires. Et enfin, les particules ultra fines que l'on commence à étudier maintenant, ben elles vont passer dans la circulation. Et on pense que c'est probablement à cause de ça que l'on voit un effet, en particulier sur la mortalité cardiovasculaire. Donc, il y a effectivement un effet local sur l'appareil respiratoire, hein, qui dépend effectivement de la taille des particules. Et plus les particules sont fines, plus elles vont passer la barrière alvéolo-capillaire et elles vont pouvoir passer dans la circulation. Donc, au niveau des effets, finalement, de ces polluants, globalement, on retrouve trois types d'effets. Le premier, c'est un effet d'irritation sur la muqueuse bronchique, hein, donc à l'origine d'un certain nombre de symptômes, comme la toux, qui est quand même un symptôme fréquent. Il va y avoir également des effets sur ce qu'on appelle l'activité mucociliaire, c'est-à-dire que finalement ces polluants vont ralentir l'épuration d'autres substances, ça peut être les allergènes, les virus ou les bactéries. Et puis, au niveau donc, de la circulation, on sait que ces particules, elles vont avoir un effet sur la formation de caillots, donc un effet thrombogène, et ça explique probablement les effets sur la mortalité cardiovasculaire. Donc, sur l'appareil respiratoire, on retrouve finalement, on a un beau modèle en pathologie respiratoire qui est la pathologie asthmatique. Et les effets des polluants sur la muqueuse bronchique, ben, on va avoir des effets immédiats qui vont se manifester par une contraction du muscle lisse bronchique et puis des effets plus retardés avec un effet inflammatoire, un épaississement de la muqueuse bronchique et puis également une sécrétion hein, qui va être à l'origine donc des symptômes et de la gêne respiratoire. Alors, dans la plupart des études épidémiologiques dont je vais vous parler, il y a beaucoup d'études qui ont utilisé des questionnaires standardisés sur les symptômes respiratoires, sur l'asthme, mais pas uniquement. Et puis, maintenant, les dernières études étudient donc la mesure de la fonction respiratoire. Ça, sont des choses qui sont un petit peu nouvelles. Et comme indicateur, je dirais, assez robuste, on va utiliser la mesure du souffle. Donc, mesure du souffle pour laquelle, dans la population générale, en termes d'éducation pour la santé, on est un peu en retard. C'est vrai qu'on aimerait bien que cette mesure du souffle, elle soit aussi parlante que le fait de se mesurer, de se peser, de prendre la tension artérielle. Là, on a encore beaucoup de retard. Donc, le souffle, globalement, se mesure par des manœuvres d'expiration forcée. Donc là, on est vraiment dans le cadre du dépistage. Donc, soit par le débit de pointe ou le peak flow, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, soit maintenant par l'utilisation de mini-spiromètres électroniques qui vont permettre de mesurer ce qu'on appelle le VEMS, c'est-à-dire l'obstruction des voies aériennes, en particulier des bronches. Alors, Patrick Bonchard en a un petit peu parlé ce matin. C'est vrai que lorsqu'on parle des effets des polluants sur la santé respiratoire, il faut avoir à l'esprit plusieurs choses. D'une part, donc, ces polluants vont induire ce qu'on appelle un stress oxydatif. Mais ensuite, tout dépend de la réponse de l'hôte. Et là-dessus, nous ne sommes pas à égalité. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Il y a probablement des facteurs génétiques. Et en fonction de l'importance de l'agression, il va y avoir des phénomènes de compensation qui vont intervenir au cours du temps. Et ces phénomènes de compensation vont faire intervenir des mécanismes différents. Donc, ils peuvent faire intervenir, par exemple, la glutathion transférase, qui est une enzyme qui est là pour lutter contre le stress oxydatif. Et puis ensuite, à un autre niveau, il peut y avoir d'autres molécules. Et donc ça a un impact, parce que maintenant, on commence à mieux appréhender les gènes qui vont coder pour ces molécules qui sont impliquées dans la réponse à l'agression. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est que les polluants atmosphériques, et en particulier donc l'ozone, vont avoir une interaction avec la réponse allergique, ce qu'on appelle la sensibilisation. C'est le fait d'avoir une prédisposition pour développer, à un moment donné, une maladie allergique. Donc, ce que l'on sait sur le plan expérimental, c'est que ces polluants vont entraîner une augmentation de la réponse à immunoglobuline E. Et on sait maintenant que les polluants vont aider au transport des allergènes et également vont fragmenter ces allergènes. Et on comprend mieux pourquoi les personnes qui sont allergiques et qui n'ont pas de pathologie forcément sévère, quand il va y avoir des pics de pollution, vont avoir une exacerbation de leurs symptômes. Alors, quand on parle des effets de la pollution atmosphérique, généralement, de manière un peu académique, on sépare les effets de la pollution en fonction de la survenue donc de ces effets. D'une part, on distingue ce qu'on appelle les effets à court terme. Donc, c'est toutes les manifestations qui vont survenir quelques heures ou quelques jours après une exposition donc à la pollution atmosphérique. Et puis, on va distinguer également ce qu'on appelle les effets à long terme, c'est-à-dire toutes les affections ou les pathologies qui peuvent survenir après une exposition chronique. Et on verra que là-dessus, on a quelques données et également quelques incertitudes. L'enjeu actuellement, le problème important pour l'interprétation des études épidémiologiques que je vais vous montrer, c'est vraiment l'évaluation de l'exposition. Alors, quand on parle d'effets aigus à la pollution atmosphérique, le principe, c'est qu'on considère, vous allez avoir donc des taux journaliers de polluants, on va avoir une certaine période d'exposition, et suite à cette période d'exposition, ils vont survenir des effets aigus ou subaigus que l'on va observer. Alors, sur ces effets aigus liés à la pollution atmosphérique, maintenant, les choses sont relativement bien connues, et on sait très bien que, suite à des périodes d'exposition importantes, on va avoir, quelques jours après, une augmentation des symptômes, de la toux, une augmentation donc du nombre de consultations ou d'hospitalisations aux urgences. Là où c'est plus difficile de trancher, même si on a quelques arguments, c'est ce qui concerne les effets à long terme. Les effets à long terme, la question c'est de se dire que est-ce que les personnes qui vont vivre, qui ont été exposées pendant longtemps donc à des niveaux élevés de pollution atmosphérique, vont avoir un gain d'espérance de vie qui va être diminué comparativement à ceux qui vont avoir une exposition faible. Et là, pour montrer cela, les choses sont un peu plus controversées. Alors, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que quand on regarde la plupart des études qui ont porté sur l'exposition à la pollution atmosphérique, souvent, elles ont mesuré, à partir des stations fixes, des niveaux donc de polluants. Maintenant, au cours de ces 10 dernières années, on a un peu progressé et on a à notre disposition des modèles de dispersion des polluants, qui sont des modèles mathématiques et qui vont permettre d'exposer, de mesurer un peu mieux cette exposition aux particules fines. Alors, ces modèles, sans trop rentrer dans le détail, il y en a plusieurs. Donc, il y en a un que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le modèle extra. Il y en a un autre qui est le modèle strict. Et donc, dans ces modèles, on va prendre en compte, d'une part, les conditions météo. On va prendre en compte également l'exposition de fond à la pollution atmosphérique. Et on va également prendre en compte toutes les contraintes, c'est-à-dire le niveau, la hauteur des immeubles et également le niveau de trafic routier à proximité de ces immeubles. Et à l'aide de ce qu'on appelle un géocodage, on va pouvoir essayer de reconstituer l'exposition à la pollution atmosphérique au cours des quelques années. Donc ça, c'est vraiment un progrès sur la mesure de l'exposition à la pollution atmosphérique. Alors c'est vrai que pour le futur, et c'est ce que l'on voit actuellement, c'est vrai qu'avant, quand on voulait mener des études sur l'exposition à la pollution atmosphérique, on avait un gros budget qui était dévoué à la mesure de l'exposition, parce qu'il fallait acheter des capteurs qui étaient coûteux, les mettre en place pendant une durée qui n'était pas forcément une durée très longue, 15 jours à 3 semaines, et puis ensuite analyser l'exposition à la pollution atmosphérique et extrapoler par rapport à la pollution de fond pendant toute l'année. Et c'est vrai qu'avec ces modèles de dispersion des polluants, dont on a travaillé là-dessus il y a quelques années, on a vraiment une idée assez précise et on retrouve les mêmes mesures que si on avait mis des capteurs dans les locaux. Alors, les données un petit peu nouvelles en ce qui concerne la pollution atmosphérique, outre les critères vraiment de morbidité, de consultation aux urgences, c'est vraiment ce qui va concerner l'impact sur la fonction respiratoire, sur la mesure du souffle. Donc là, il y a surtout des études américaines qui ont porté là-dessus. Vous avez ici sur ce graphique la répartition, donc il y a énormément de villes qui ont participé donc, à ces études, avec donc, des disparités en fonction des villes. Donc ici, vous avez pour l'ozone les PM10, le NO2 et les PM2.5. Dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont étudié d'une part en termes de population des enfants. Donc ils les ont suivis pendant 8 ans, donc c'est une cohorte sur plus de 10 000 individus, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ils ont mesuré chaque année la fonction respiratoire dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont été les premiers à mettre en évidence, finalement, ce que vous voyez par exemple ici, dans les villes dans lesquelles les enfants étaient exposés à des niveaux de pollution élevés, ben, c'était dans ces villes-là que l'on retrouvait une proportion d'enfants qui avaient un souffle anormal. Donc, depuis, il y a d'autres études qui ont confirmé ces données. Donc, on va un peu plus dans le sens d'un impact, pas seulement sur les symptômes, mais sur la fonction respiratoire, en particulier chez les plus jeunes. Alors, une autre question qui est soulevée, et pour l'instant, on n'a pas de réponse, c'est est-ce que la pollution atmosphérique pourrait avoir un effet sur la croissance pulmonaire ? Vous savez que, au cours de la vie, on grandit, puis ensuite on vieillit, et il y a un âge clé qui est celui, effectivement, de l'adolescence, où finalement, les personnes vont avoir une augmentation de la taille, du poids, et c'est vrai aussi pour l'appareil respiratoire. La maturation de l'appareil respiratoire, elle atteint sa maturation à l'âge de 20 ans. Et donc, il y a eu une étude où ils ont regardé la croissance pulmonaire, et ils ont montré que dans les villes dans lesquelles les enfants étaient exposés à des niveaux de pollution élevés, ben, il y aurait un retentissement sur la croissance pulmonaire, avec une diminution de la croissance pulmonaire par rapport aux enfants qui vivaient dans des villes moins polluées. Donc pour l'instant, ils ont été le seul à montrer cette étude. Il n'y a pas encore d'autres études qui ont montré les mêmes résultats, mais ça pose quand même question sur les effets de la croissance, sur la croissance pulmonaire. Alors, ce qu'on connaît bien quand même au niveau des symptômes, quelle que soit finalement la pathologie sous-jacente, c'est que on a effectivement un effet de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire. Et le premier symptôme, c'est la toux. Hein, la toux, et c'est un symptôme qui est quand même banal. Et ça, toutes les études montrent très clairement que quand on vit dans des endroits qui sont plus pollués, ces symptômes d'irritation à type de toux sèche ou de toux grasse sont élevés. Et ceci, quel que soit l'âge. Alors, en ce qui concerne les effets de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire, nous avons mené, donc il y a quelques années, une étude donc, sur la santé respiratoire des enfants dans les années 2000-2002, dans le cadre d'une grande étude internationale qu'on appelle l'étude Isaac. Donc, c'est l'étude qui a porté sur 6 villes que vous avez ici représentées. Donc, dans chaque ville, on a inclus 1500 enfants et on a donc regardé s'il y avait un effet sur la santé respiratoire de la pollution atmosphérique. Alors bien évidemment, comment on s'y est pris? On a mis dans les écoles des capteurs pour mesurer la pollution atmosphérique, aux particules fines en particulier. Alors, on a pu montrer, vous avez ici, vous pouvez retrouver la publication donc dans le RJ, ça a permis donc de montrer plusieurs éléments. D'une part, on a retrouvé les mêmes niveaux de pollution à l'intérieur des écoles et à l'extérieur des écoles, en ce qui concerne l'ozone, les particules fines, les NOx. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu. Deuxième élément, on a pu montrer qu'entre les différentes villes, il y avait effectivement des disparités en termes de polluants. Et on a pu également montrer que chez les enfants qui vivaient depuis à peu près plus de 3 ans dans ces zones, il y avait un effet très net, en particulier des particules fines, sur la santé respiratoire, avec une augmentation du risque d'asthme. Donc ça, maintenant, ce sont des données qui sont bien connues. Alors, il y a eu d'autres études qui ont regardé de manière un petit peu plus précise qu'est-ce qui était un facteur de risque de diminution de la fonction respiratoire. Et maintenant, ce qui est bien connu, c'est que le fait de vivre à proximité d'un axe routier entraîne un effet sur la santé, Et quand on dit un effet sur la santé, c'est indépendamment des symptômes, mais surtout sur les petites voies aériennes. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de la mesure de la fonction respiratoire, mais on a également des indicateurs qui permettent de mesurer le calibre des petites voies aériennes. Et on sait très nettement que lorsqu'on vit à proximité donc d'un axe routier, il y a pendant plusieurs années, il y a au bout d'un certain temps, une diminution du calibre des voies aériennes. Et ils ont regardé en fonction de la distance par rapport donc à cette autoroute. Donc ça, c'est des données maintenant qui sont bien connues. Alors, une des questions que l'on se pose souvent en matière de pollution atmosphérique, c'est de savoir si, finalement, les gens qui ont une augmentation de, qui ont un effet sur la santé, est-ce que ce ne sont pas déjà des personnes qui sont malades? Donc ça, on le connaît bien. Mais il y a quelques études qui montrent quand même que quand au départ on n'est pas malade, on n'est pas asthmatique, qu'on n'a pas de facteur de risque d'allergie ou d'atopie, le fait de vivre dans une ville polluée, et ça ce sont les Américains qui ont montré ça, ben, il y a une augmentation de l'incidence de l'asthme. Donc maintenant, il y a plusieurs études qui vont effectivement dans le même sens. Et dans leurs études, ils ont bien évidemment exclu les personnes qui avaient des problèmes respiratoires au départ ou qui avaient des facteurs de prédisposition personnels ou familiaux. Alors, vous avez ici les résultats des différentes études, c'est un peu une synthèse de la littérature, sur les effets de la pollution atmosphérique sur la mortalité. Hein. Donc, vous avez ici le risque relatif qui est de 1, et vous voyez que globalement, la plupart de ces études montrent effectivement un effet sur la mortalité toute cause. Et quand on différencie les choses, vous voyez ici les études qui ont porté sur l'effet de la pollution atmosphérique, ici c'est le NO2 sur la mortalité toute cause, on voit très clairement que quand on regarde la mortalité d'origine cardio-pulmonaire, il y a une augmentation du risque. Et quand on regarde un peu plus en détail ces études, cette augmentation de la mortalité, elle est bien sûr plus importante chez les personnes âgées. Alors, il y a une notion quand même qui est un peu nouvelle quand on s'intéresse aux effets de la santé, aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire, c'est la notion de prédisposition génétique. Je vous ai dit tout à l'heure que quand il y avait une agression sur la muqueuse bronchique, sur l'appareil respiratoire, on n'était pas tous à égalité pour répondre à cette agression. Et on sait maintenant qu'il y a un certain nombre d'enzymes, donc là c'est un exemple, vous avez ici l'enzyme, c'est la glutathion transférase, qui lorsqu'elle est présente va permettre d'éliminer ce qu'on appelle les radicaux libres. Et on s'est rendu compte que, en fait, les enfants qui étaient sensibles aux effets de la pollution atmosphérique, c'était des enfants qui avaient un déficit en enzymes, en glutathion transférase. Et que c'était chez eux que la pollution atmosphérique avait un effet plus important. Et c'était ceux-là qui avaient des problèmes de toux, des problèmes de sifflement ou des problèmes d'asthme. Alors maintenant, quand on s'intéresse aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire, tout le monde est d'accord pour considérer que c'est vraiment une interaction entre des gènes et un environnement. Et actuellement, il y a énormément de gènes qui sont à l'étude, je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples, pour identifier les personnes qui seraient à risque. Alors il y a une notion intéressante quand on fait de l'épidémiologie ou de la santé publique, ce sont les études d'intervention. Et certains auteurs se sont dit, voyons, si quelqu'un est déficitaire en enzyme qui est là pour lutter contre les problèmes de stress oxydant, c'est-à-dire qu'il y a une carence, est-ce qu'en donnant une supplémentation en vitamine C, par exemple, ou en antioxydant, est-ce qu'on ne pourrait pas antagoniser l'effet des polluants sur la santé respiratoire? Donc une personne qui a travaillé en particulier sur ce sujet, c'est Isabelle Romieux, que vous connaissez probablement à Mexico. Donc il y a d'autres études qui ont porté là-dessus et qui sembleraient effectivement que chez les enfants qui ont un déficit en certaines enzymes, le fait de supplémenter, on arriverait à diminuer le risque. C'est des études qui portent encore sur peu d'enfants, mais disons qu'il y a pas mal d'études qui sont en cours de développement dans ce domaine. Donc probablement peut-être des études d'intervention. Donc moi je vous ai parlé en termes de gènes candidats sur la prédisposition génétique de la glutathion transférase, mais en fait vous voyez sur cette diapositive qu'il y a plein d'autres gènes qui sont actuellement étudiés et qui en étant déficitaires pourraient être impliqués sur cette fragilité respiratoire liée aux polluants atmosphériques. Alors si on veut un petit peu conclure sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que au niveau des données expérimentales, les choses sont relativement claires. Il y a des effets sur la santé respiratoire. Plus personne maintenant ne les discute. Il y a une hyperréactivité bronchique. Il y a une inflammation sur la muqueuse bronchique et sur la muqueuse nasale. Et une interaction avec les mécanismes qui sont impliqués dans l'allergie. Au niveau des effets à court terme, on sait très bien que les différents polluants qu'on connaît ont des effets sur les symptômes respiratoires. Chez ceux qui ont déjà des pathologies respiratoires, qui sont asthmatiques, qui ont une BPCO, ils sont plus souvent hospitalisés, ils vont plus souvent aux urgences et il y a effectivement des effets sur la fonction respiratoire. Là où on a encore un point d'interrogation, c'est ce qui concerne les effets à long terme. Les effets à long terme, pourquoi ? Parce qu'on a effectivement, je vous ai montré un exemple tout à l'heure, des modèles de dispersion des polluants, mais pouvoir reconstituer une exposition à la pollution atmosphérique vie entière, pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. L'autre élément qui est également important et qu'il faut avoir en tête, c'est comment on prend en compte l'effet cumulatif des différents polluants. Nous tous ici, on est exposés pas simplement aux particules fines, mais également aux NOx, etc. Et donc, il nous faut des modèles pour pouvoir prendre en compte l'effet synergique, l'effet cumulatif de ces différents polluants. Et puis, ce qui vient compliquer un petit peu la situation, c'est que maintenant, on sait très bien qu'il y a des polymorphismes génétiques qui, chez certains individus, vont entraîner une susceptibilité accrue aux effets des polluants. Alors, je voudrais juste terminer quand même sur une photographie qui est que, effectivement, la qualité de l'air, ça intéresse tout le monde. On a effectivement la chance de vivre dans un pays développé et donc, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes contraintes que ce qui se passe dans d'autres pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, peut-être pour les plus sceptiques, les effets de la pollution atmosphérique, on sait exactement ce que ça va donner. Et l'exemple, il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays en voie de développement. Vous avez ici en particulier l'exposition à la biomasse, c'est-à-dire l'exposition à la combustion des produits de charbon ou du bois. Donc énormément, plus de 50% de la population mondiale est exposée à ce type de pollution, avec des problèmes de ventilation, 6 à 8 heures par jour, en particulier pour les femmes et les enfants. Et on sait très clairement, donc vous voyez ici sur cette cartographie, ça a été publié récemment dans le Lancet, en fonction des différents pays, le pourcentage de foyers qui sont exposés à cette source de pollution. Et ce que l'on sait très clairement maintenant, c'est que dans certaines études, ils sont allés dans ces environnements, dans ces cuisines mal ventilées, pour mesurer la teneur en particules. Et donc si on compare par exemple les normes de PM10 dans les pays développés, voyez aux alentours de 150 microgrammes sur 24 heures, quand on regarde les personnes qui sont exposées à la biomasse, on voit tout de suite qu'ils sont exposés à des niveaux de pollution sans commune mesure avec ce à quoi on est exposé. Et les effets sur la santé pour ces personnes-là, ben, on les connaît et on sait très bien maintenant qu'il y a un risque en particulier respiratoire d'une maladie qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors nous, on connaît cette maladie dans les pays développés, surtout par rapport au tabac, en se disant que c'est finalement la maladie du fumeur à plus de 60 ans. Ben, maintenant, la réalité de cette maladie, elle a changé. Dans les pays en voie de développement, c'est la maladie du sujet jeune, de personnes qui n'ont jamais fumé et qui ont ce type d'affection à partir de 20 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une méta-analyse qui montre l'effet de l'exposition à la biomasse sur la santé respiratoire. Et on sait maintenant que, effectivement, cette pathologie respiratoire qui est la BPCO avec l'obstruction des voies aériennes, on retrouve de plus en plus de maladies comme cela chez des personnes qui n'ont jamais fumé. Vous avez sur ce diagramme la proportion de non-fumeurs, qui présentent ce type d'affection. Et donc ça pointe directement en cause non seulement la pollution atmosphérique, mais bien sûr tous les aérocontaminants, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan domestique. Donc pour terminer, je pense que vous êtes tous convaincus effectivement que l'exposition à la pollution atmosphérique, c'est un problème de santé publique. C'est vrai que en termes de perception du risque, je pense que dans la société actuelle, c'est une perception du risque qui est accrue. On voit très clairement qu'on a un effet sur les symptômes. Il y a également un effet sur la mortalité. Je vous ai montré un peu la synthèse de la littérature. Mais c'est vrai, il faut avoir à l'esprit que finalement, dans le monde, il y a d'autres personnes, plus de 50% de la population, qui est déjà exposée à des niveaux de pollution beaucoup plus importants, avec des effets sur la santé qui sont probablement sous-estimés. Je vous remercie.
Un des points très importants sur lequel Chantal a insisté, c'est les difficultés d'évaluer l'exposition à long terme, les effets de l'exposition à long terme. Et je me souviens que dans l'enquête PARC, où l'on avait travaillé l'un et l'autre, qui était une étude où on avait étudié à 20 ans la mortalité à l'exposition de la pollution atmosphérique, ce qui nous faisait cruellement défaut, c'est qu'on avait un niveau de pollution au point zéro et qu'ensuite, pendant les 20 ans, il était très difficile d'avoir une notion, une appréciation des niveaux de polluants de la pollution pendant toute cette période intermédiaire, sachant que dans l'étude en question, qui était en France, des mesures avaient été prises pour réduire la pollution atmosphérique et que la pollution atmosphérique n'avait pas été constante pendant toute la période intermédiaire. Et ça, je crois que c'est effectivement là, une des grandes difficultés pour mesurer les effets de l'exposition à long terme de la pollution.
Tout à fait, effectivement. C'est vrai qu'actuellement, on est quand même dans des approximations. Je crois que ça, il faut le garder en tête. On est dans des approximations. Alors, probablement que l'on sous-estime le risque d'une certaine façon, parce qu'on étudie les facteurs un à un. Et une ambition que l'on aurait, peut-être qu'un jour on va y arriver, c'est de pouvoir avoir un modèle qui nous permette de prendre en compte toutes les expositions, c'est-à-dire à la fois qu'elles soient domestiques, qu'elles soient professionnelles, pour à la fin pouvoir présenter finalement un risque attribuable en fonction des types d'exposition. Je pense que c'est probablement l'avenir.